Vous écoutez RTL.
14h03, voici la curiosité avec Thomas et avec Sidonie.
Salut Stéphane.
Mais
salut
oui Stéphane, avec un grand destin comme on les aime. Donc dans la curiosité, celui de Jules Verne, de la France, de la Terre à la Lune, 20 000 lieues sous les mers, 5 semaines en ballon. Il nous a fait rêver comme tant de générations depuis son premier livre en 1863. Vous verrez comment ce Nantais a su nous faire voyager en partant du port de Nantes et inventer un univers nourri des avancées technologiques de la révolution industrielle.
Et tout de suite sur RTL dans la curiosité. On vous raconte l'épopée du chemin de fer français. RTL.
Ton train part dans 10 minutes. Voilà ton billet.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. Bonjour, bienvenue les curieux, c'est parti pour une heure de surprises, d'histoires, d'anecdotes sur RTL, sur les chapeaux de roue évidemment, avec toujours une dose de bonne humeur et de bon humour. Vous allez bien Thomas?
Salut Sidonie, ça va très bien, bon, on va faire ce qu'on peut. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous le savez, ici on se passionne pour tout, aventure, saga musicale, la science aussi, les grands destins, la nature, et puis on adore explorer l'histoire ou les coulisses de notre vie quotidienne.
Et dans nos vies quotidiennes, il y a nos moyens de transport. Ça nous concerne tous les jours, ça nous prend même la tête parfois et ça nous rend évidemment service. Alors que le gouvernement s'apprête à réformer la SNCF, on vous raconte les premiers pas de cette entreprise et aussi l'histoire du chemin de fer parce qu'elle est passionnante. Bonjour Clive Lamming.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien des chemins de fer français, on est ravis de vous retrouver au micro de la curiosité. On se fait plaisir, on va commencer par une belle archive RTL. Nous sommes le 16 juin 1981 et notre radio émet à bord du tout nouveau TGV sur la nouvelle ligne Paris, Gare de Lyon, Le Creusot.
RTL ne se refuse absolument rien et nous essayons toujours d'aller le plus vite possible. Nous sommes à 260 km à l'heure et pour être en direct actuellement, nous avons disposé le long de la voie de voitures techniques. Tous nos techniciens sont installés depuis cette nuit, à peu près tous les 80 km. Et nous sommes actuellement survolés par deux avions depuis Paris qui nous servent de relais. C'est-à-dire que toutes les émissions partent du train en direction des avions qui sont renvoyés sur les voitures techniques et qui nous permettent donc de transmettre...
Et c'est le journaliste Michel Blanc qui tenait l'antenne. On voit que c'est un événement absolument capital, important.
Prouesse technique même.
Prouesse technique, Clive Lamming. Il ressemblait à quoi ce premier TGV? Vous pouvez nous le décrire et nous le faire visiter?
Il ressemble à quelque chose qui va presque plus vite que les avions. Vous avez eu de la chance que vos avions aient pu suivre, parce que les records de, en 1955 à 331 km/h, la presse américaine suivait en avion, avec l'intention d'ailleurs de filmer le plus beau déraillement in the world. J'étais sûr que ça allait mal finir. Oui. Ça a très bien fini et les avions ont été simplement semés. Ils ont été largués, ils ne dépassaient pas le 200.
Et donc ça continue avec le TGV en fait.
Ça continue avec le TGV, oui et non. Non, le TGV ne va pas à la vitesse des avions, même si il bat des records à près de 500 km/h, mais de centre à centre-ville, il reste le plus rapide sur des distances, je dirais, inférieures à 1000 km. N'essayez pas d'aller à Istanbul et faire l'Orient Express en train, vous mettriez aujourd'hui toujours 2 jours, 3 jours. Or qu'en avion, je crois, on met 3 heures.
C'est comment le confort à l'intérieur du TGV en 1981?
Ce confort est relativement spartiate. Il est de type aéronautique, avec des couleurs, des sortes de simili-cuir, vert cru et bleu intense. Ce n'est pas très très réjouissant. Et le TGV aura fort à faire pour trouver un peu de glamour, de tissu, de mollesse et de tendresse. C'est un confort très dur, mais on pensait à l'époque que le TGV serait destiné à des hommes d'affaires pressés qui n'ont Dieu que pour leur chronomètre. Or, le TGV s'est mis à transporter tout le monde, de la grand-mère aux petits-enfants, aux gens qui partaient en vacances. La vitesse, finalement, n'intéressait pas les Français, mais les horaires, oui. Aller à Lyon en 2 heures, aller de TGV Atlantique jusque dans sa maison de campagne en Vendée en 3 heures, ça c'est intéressant.
Bien sûr, et ça continue au fur et à mesure que les nouvelles lignes ouvrent. On est donc en 1980. Est-ce que c'est une prouesse française, ce TGV? Qui sont nos concurrents en matière de vitesse sur les rails, si j'ose dire?
Qui a imposé la vitesse sur les rails? C'est un ministre qui a porté une petite barbichette qui s'appelait Pisani.
Oui, Edgar Pisani,
qui a dit un jour à la SNCF, je crois qu'il était à l'époque ministre des Transports, vos trains ne pourraient pas rouler à 200 à l'heure comme chez les Japonais. Et si la SNCF a dit si, on a donc lancé des trains à 200 à l'heure comme le Capitole Paris-Toulouse. Mais à l'époque, le Shinkansen japonais, le fameux TGV, les Japonais roulaient à 210 à l'heure. Le vrai inventeur de la vitesse ferroviaire sur une ligne dédiée, je vais peut-être vous faire bondir, ce sont les Italiens en 1930, 1940, avec les fameuses direttissima, ces lignes construites spécialement en rase campagne pour aller plus vite entre Florence et Rome. Autrement dit, l'Italie de l'époque, sous Mussolini, les trains arrivaient à l'heure et roulaient très vite.
Clive Lamming, l'ancêtre du TGV, c'est le turbotrain, et le 13 septembre 1968, le turbotrain bat un record, et forcément, RTL y était.
Le turbotrain, 210 km/h en vitesse de pointe entre Paris et Caen hier après-midi, grâce à ce nouvel engin, propulsé comme son nom l'indique par une turbine, on gagnera bientôt plus de 3 quarts d'heure entre Paris et Cherbourg. Dans la cabine de pilotage, deux hommes aussi solidaires que le pilote d'un rallye et son navigateur, le premier surveille la voie et annonce les signaux, l'autre tient en main les commandes, les yeux fixés sur les cadrans et les voyants lumineux qui donnent à chaque instant les réactions du turbotrain.
Clive Lamming, pourquoi il n'a pas survécu le turbotrain ? Pourquoi il disparaît ?
Le turbotrain disparaît aussi vite qu'il apparaît, parce que imaginez aujourd'hui quelques 4 à 500 TGV circulant tous les jours avec des turbines à gaz marchant au pétrole. Et alors, ce qui est curieux, c'est que le dernier acte politique du président Pompidou, ça a été de signer le décret d'utilité publique de la ligne à grande vitesse. Et savez-vous que Ségala, président de la SNCF, on lui pose la question de la part de l'Élysée, mais votre futur train TGV, il marche à l'électricité ou pas ? Et Ségala, sans que là, il y a quelque chose de suspect pour lui. Mmh. Et il ment, je dirais, pour la bonne cause. Il dit, Monsieur le Président, non, il marchera à l'électricité. Et dès le lendemain, on demande à la SNCF de tout changer. C'est-à-dire, pourquoi le TGV est si bizarre ? Il y a une motrice et une première remorque avec un moteur électrique. Ça ne tenait pas dans la motrice. Toute cette électricité...
Elle a été rajoutée, en fait.
Ça a été transformé, rajouté dans une sorte de panique qui a duré donc entre les années 70, parce que évidemment le choc pétrolier est là.
Et la SNCF, justement, vous en parliez, Clive Lamming, l'entreprise, quand a-t-elle été créée et pourquoi ? Le récit de cette grande aventure, tout de suite sur RTL.
RTL Matin, Yves Calvi.
Cher Michel, bonjour, on vous retrouve avec grand plaisir.
Est-ce que vous imaginez, Yves, qu'il y a en France 700 000 personnes qui sont diabétiques et qui ne le savent pas ?
Ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
Bougez, dans l'idéal, je le rappelle, une demi-heure par jour minimum. Vous réduisez les sucres qui se cachent dans les sodas. C'est curieux, j'ai comme l'impression parfois de me répéter un peu. Mais il paraît que la pédagogie, c'est l'art de la répétition.
Je vous le confirme. À demain, Michel Simès.
Retrouvez les conseils santé et bien-être de Michel Simès chaque matin à 8h15 sur RTL. RTL.
C'est vrai que les histoires d'amour, c'est comme les voyages en train. Et quand je vois tous ces voyageurs, parfois j'aimerais en être un.
RTL.
De Raphaël à Grand Corps Malade, en passant par Dorothée et Richard Anthony, tout le monde chante le train saga, chemin de fer dans la curiosité, alors que le gouvernement veut réformer la SNCF. Nous, on s'intéresse tout de suite au tout début avec l'historien des chemins de fer, Clive Lamming. En quelle année est créée la Société Nationale des Chemins de Fer français, Clive Lamming ?
Elle est créée par le Front Populaire en 1937. Voilà, le déficit s'est accumulé depuis 1878. Pendant 50 ans, la nationalisation est inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Mais personne ne veut la faire. Parce
Mais le déficit de qui ? C'est parce qu'il y a plusieurs compagnies avant.
Le déficit du système ferroviaire, ouais. les compagnies sont toutes en déficit, parce que, évidemment, le chemin de fer est une chose qui coûte très cher et qui ne peut pas être faite sans l'aide de l'État. D'ailleurs, c'est Napoléon III qui, dans sa grande sagesse, distribue les rôles. Il distribue les règles, les pièces et l'échiquier et les règles du jeu. Et c'est l'État, donc, qui finance et qui, après, reçoit de l'argent en contrepartie, si ça marche bien. Seulement, on n'admet plus tellement ce principe-là. On critique beaucoup le système ferré et, en 1937, le déficit atteint 37% du budget de l'État. Aujourd'hui, c'est 18%. Et il faut donc nationaliser. Et c'est René Meyer, un jeune fondé de pouvoir, qui crée la Société Nationale des Chemins de Fer. Société, parce qu'on ne peut pas utiliser le terme de compagnie, qui est très mal vu par le Front Populaire. Les compagnies, c'est des voyous. National, parce que le Front Populaire et nationaliste. J'allais dire que le Front National est populiste, mais aussi. Mais à l'époque, le Front Populaire est très nationaliste. Oui. Chemin de fer, c'est le plus joli terme qui désigne l'ensemble. Et on remet une couche de nationalisme avec français. Le terme est très joli. D'ailleurs, il est emprunté finalement à Air France. René Meyer a créé Air France. Et c'est lui qui donc va créer la SNCF sur le modèle d'Air France.
Mais qu'est-ce qu'il y avait avant ? Il y avait
Il y avait sept grandes compagnies, toutes privées, mais avec des intérêts nationaux. Là, il y avait déjà des actionnaires qui se contentaient à l'époque d'un 14%. Ce ne sont pas les requins actuels à qui il faut, sur fonds de pension, 15%.
Mais sept compagnies, c'était région par région, comment
alors,
ça fonctionnait?
Oui, la France ressemblait à une boîte de vaches qui rient avec des portions. Paris est au centre. Clair. Et autour, la compagnie de l'Est, la compagnie du Nord, la compagnie de l'Ouest, celle de l'État qui existait déjà un peu dans la Vendée. Là, il y avait déjà une vitrine technologique nationalisée. Il y avait le Paris-Orléans et surtout l'énorme PLM Paris, Lyon et Méditerranée. Donc ces sept compagnies sont complètement déconfites dans les années 30. La crise économique fait que ça ne marche plus. Et donc, aussi la concurrence routière et aérienne.
Et donc en 1937 est créée la SNCF. À combien de kilomètres s'étend le réseau ferré ?
À l'époque, le réseau ferré fait à peu près 40 000 kilomètres de grande ligne.
Aujourd'hui, c'est combien pour comparer ?
À peine 30 000. Et j'oublie encore les 30 000 kilomètres de chemin de fer départementaux, voies étroites qui vont d'un village à l'autre en France. Ça faisait 70 000 kilomètres à peu près. Et il y avait 12 500 gares. Aujourd'hui, on en est à 30 000 kilomètres à peine et 3 000 gares.
Pourquoi ils disparaissent, ces voies ?
On a tout cassé, tout massacré. C'était une des conditions de vie de la SNCF, de la création de la SNCF, c'était le suicide en direct. Il fallait qu'elle ferme toutes ses lignes. Et en fermant ses lignes, elle a, je dirais, désertifié la campagne française. Le Massif central n'a plus de lignes, la Bretagne n'en a plus. C'était déjà, on ne fait que recommencer. C'est un phénomène cyclique. D'ailleurs, tous les 30 ans, à peu près, on retrouve le même discours.
Clive Lamming, quel était le type de train qui roulait sur ce chemin de fer en 1937 ?
Des grosses locomotives à vapeur, de magnifiques pacifiques, avec leurs 30 tonnes d'eau, leurs 7 tonnes de charbon dans le tender, des mécaniciens à la Gabin, tout à fait, qui roulent à 120 à l'heure, vitesse extraordinaire, et qui tirent des trains de 600 tonnes. Je vous signale que le chemin de fer, quand il est inventé en 1830, va 24 fois plus vite que la diligence. C'est le plus grand bond en matière de vitesse fait dans l'histoire de l'humanité. Si vous faisiez un reportage à Marseille en 1830, il vous fallait demander 40 jours, 20 jours aller, 20 jours retour pour faire votre reportage. Le chemin de fer l'est fait en heures. On fait ça en 20 heures. Aujourd'hui, le TGV, il l'est fait en 3 heures. Il ne va que 7 fois plus vite que les premiers trains, mais les premiers trains vont 24 fois plus vite que les dernières diligences. Ça, quand même, c'est un progrès.
Ça, c'est impressionnant. Clive Lamming, vous publiez Patrimoine ferroviaire aux éditions du Patrimoine. Et dans votre puits de science ferroviaire, il y a forcément la toute première ligne de chemin de fer en France. Alors, c'était où la première ligne pour les passagers, pour le fret? Et il y a un débat, on va le trancher dans un instant sur RTL. Restez avec nous.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.
La SNCF a été créée en 1937, mais l'histoire du chemin de fer a commencé bien avant. On vous raconte cette épopée avec l'historien Clive Lamming. Que se passe-t-il le 24 août 1834, 37, pardon, on est à Paris. Quelle ligne de chemin de fer est inaugurée ?
La ligne qui est inaugurée en 1837, c'est une ligne, je dirais, exclusivement réservée au transport des voyageurs, qui va donc de Paris à Saint-Germain. Même le roi ne s'y risque pas, c'est trop dangereux. Mais on envoie la reine Amélie, hein. Ça c'est pas grave. Mais le roi n'y va pas.
À Louis-Philippe, le président conseil, il a peur ?
Oui, et puis c'est dangereux, les locomotives peuvent exploser.
C'est courageux d'envoyer sa femme.
C'est très courageux d'envoyer sa femme, vous apprécierez, n'est-ce pas, la démarche qui est tout à fait très mode aujourd'hui. Et mais le chemin de fer français est vraiment né dans la Loire, si vous voulez. C'est entre Lyon et Saint-Étienne, avec Marseguin, cette fameuse ligne industrielle qui est une ligne d'un grand visionnaire. Marseguin invente ce que je pourrais appeler l'aménagement concerté des territoires. Mais avant, il y a même la ligne de Lyon, de Saint-Étienne à Andrézieux, qui est inaugurée en 1827. Elle aussi, il y a des voyageurs qui vont dessus. Les trains descendent avec des plans inclinés, sont hissés avec des usines à vapeur et des treuils pour les rampes.
Oui, parce que la nouveauté, en fait, dans cette ligne Paris-Saint-Germain, c'est qu'elle est exclusivement réservée aux voyageurs. C'est ça,
avec
parce que
des horaires et des gares. C'est la ligne commerciale, si vous voulez.
Oui, d'accord. C'est ce que racontait Sidonie ce matin dans la matinale. Et ça a fait réagir remercier nos auditeurs de Saint-Étienne qui nous ont appelés, qui ont écrit, et merci à eux d'ailleurs de nous avoir.
Un petit salut à Christian Sichel et Pierre Meunier.
Mais vous savez, le chemin de fer est né au Moyen-Âge dans les mines, il est même né dans l'Antiquité pour le franchissement de l'isthme de Corinthe, pour les bateaux qui roulaient sur des rails en marbre. Donc le principe est très vieux.
Et si on retournait à cette inauguration de 1837 et l'un de ces premiers chemins de fer à Paris qui relie Saint-Lazare à la commune de Pec, à quoi il ressemble le train? On est comment à l'intérieur? C'est en bois, c'est en velours, il y a des classes?
Ce train de l'époque a une petite locomotive de type anglaise, de type 101, Stephenson. Il y a des voitures dans les trois classes prises dans les diligences. Déjà, on est très... Il y a la lutte des classes commence, ou plutôt continue avec le chemin de fer. En troisième, il y a 90% des voyageurs, ceux de rudes bancs en bois, voire même debout dans des chars à bancs sans bancs. La seconde classe, c'est la bourgeoisie moyenne, et qui ne se mouille pas avec la première classe où sont les banquiers et les respectueuses et de moralité douteuse.
C'est cher de voyager en train,
oui,
cette époque, en 1837
plus cher en première classe qu'en troisième, mais le train est 2 à 3 fois plus cher que la diligence, parce qu'il y a des investissements très lourds. Mais le train va gagner sur la diligence, parce que quand vous allez de Paris à Lyon en diligence, vous mettez donc à l'époque à peu près 10 jours, 15 jours, vous avez énormément de frais de restauration et d'hébergement. Le train, en une dizaine d'heures, vous fait économiser beaucoup d'argent sur le prix réel du voyage.
Clive Lemming, c'est encore vrai aujourd'hui. Chaque innovation technologique provoque son lot de détracteurs. Que dit-on du train à l'époque? Quelles sont les critiques?
Les critiques sont, par exemple, celles d'Adolphe Thiers, homme très respectable, médecin, et qui dit « mais le corps humain va être décomposé, les os vont aller plus vite que les chairs ».
La vitesse fait peur, en fait.
Oui, la vitesse fait peur. Et lorsque Victor Hugo prend le train pour aller à Bruxelles, une des premières lignes internationales, c'est entre Paris et la Belgique, il dit « mais je ne vois plus les fleurs, je ne vois que des traits ». Par terre, des traits de couleur. Et ça les effraie complètement, mais en même temps, on est très admiratif. Donc, ça aussi, le chemin de fer entraîne un bouleversement social. Il faut partir avec une heure donnée en minutes et en heures, et presque en secondes. À l'époque des diligences, on donne rendez-vous au lever du soleil à la barrière de Vincennes. C'est tout. Les diligences voyagent avec le soleil. Il n'y a pas d'horaire. Mais le chemin de fer, pour des questions de sécurité et d'exploitation, impose des horaires à la minute.
Donc ça veut dire que grâce au train, les Français deviennent plus ponctuels?
Ils deviennent ponctuels. Et Labiche et Feydeau se moquent des gens qui prennent le train, le bourgeois qui court en regardant sa montre, chose inédite jusque-là.
Et ça oblige même à unifier en quelque sorte l'heure d'un pays, c'est ça l'émergence du train?
La France est unifiée par l'heure. L'heure de la gare remplace le clocher de l'église. Et le triomphe de l'heure, c'est le triomphe du système métrique, de la ponctualité, de la technique, de la modernité et du progrès. On court parce qu'on est moderne et on prend le train parce qu'on est moderne. Et on arrive à 18h27, non pas quelque part au coucher du soleil.
Et bien maintenant, il est 14h27 sur RTL.
C'est sûr, et notre histoire et notre richesse, c'est pour ça qu'on a encore une belle archive RTL à découvrir sur une innovation de la SNCF, c'est le JVS, Je voyage seul pour accompagner les enfants dans le train.
Et puis juste après, portrait d'un grand destin français, je vous le disais, Jules Verne, auteur et visionnaire. À tout de suite les curieux.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Chaque fois mon train qui déraille, et la tête à l'ouest, ma vie n'a ni queue ni tête.
On est bien entre curieux sur RTL.
Avec Zazie, Michel Jonas et Henri Salvador, le chemin de fer français est dans l'œil et dans l'oreille de notre curiosité avec l'historien Clive Lemming. En 1976, un nouveau service est créé par la SNCF, le JVS. Écoutez cette archive RTL.
Comment ça se passe pendant le voyage? Vous êtes seule pour accompagner les enfants?
Toute seule.
Mais si un enfant a envie de faire pipi ou quelque chose
comme ça? Je l'accompagne aux toilettes. Si on veut, par exemple, là aujourd'hui, ils sont trois, donc il est très commode de les emmener tous les trois aux toilettes et on revient ensuite dans le compartiment.
Sinon, s'ils sont vite...
Sinon, un par un, et puis malgré tout, on les laisse. Il y en a toujours un qui est plus grand, qui peut faire attention aux petits.
Mais ça pose pas de problème particulier?
Non.
À l'époque, c'était les infirmières de la Croix-Rouge qui s'occupaient des enfants comme ça dans le train en 1976. Aujourd'hui, comment s'appelle ce service, Clive Lemming?
Je pense que ce service n'existe plus. Parce que,
si,
vous savez, il existe. Oui, c'est possible. Mais vous voyez, le charme du chemin de fer par rapport à l'automobile...
C'est des étudiants, maintenant, qui accompagnent des enfants.
Ce sont tous ces services concrets, vous voyez. Finalement, le chemin de fer est obligé de tout faire. Alors qu'en automobile, c'est le conducteur qui achète la machine, c'est lui qui fournit les heures de conduite, c'est lui qui paye les péages, c'est lui qui paye les PV. Alors que le le chemin de fer, crée une abondance de services qui sont tous aussi touchants les uns que les autres. J'espère que JVS existe toujours,
ça existe.
On n'en parle plus en tant que tel.
Non,
il a dû changer de nom. Il doit exister toujours.
Clive Lemming, vous m'impressionnez toujours, vous nous impressionnez toujours avec votre connaissance de l'histoire des chemins de fer français et autres. Qu'est-ce qui vous a donné la passion du train ?
Je vais vous dire, c'est la lecture dans la bibliothèque de mon grand-père Ardéchois, lecture obligatoire, recueillie et à peine consentie de Jules Verne. J'ai pratiquement lu tout Jules Verne. Et alors, le tour du monde en 80 jours, je me suis d'ailleurs amusé depuis peu à savoir si c'est toujours possible. Ça l'était difficilement à l'époque de Jules Verne, parce que c'est une vision à partir des horaires. Et d'ailleurs, il met plein d'incidents contre lesquels Phileas Fogg lutte, les incendies, les disparitions de voies ferrées. Aujourd'hui, ce serait faisable en 40 jours à peu près.
En train et en bateau, forcément.
Train et bateau, forcément.
Merci beaucoup, Clive Lemming, pour plus d'infos et d'histoires sur le chemin de fer et la SNCF. Votre livre, Patrimoine ferroviaire, c'est aux éditions du Patrimoine, ça tombe bien.
Vous écoutez RTL.